France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Cédric Tiberghien, je suis né à Colombes, juste à côté de Paris, le 5 mai 1975, et je suis pianiste.
On a vu cette enfance qui se déroule donc dans l'Oise avec des vacances à Saint-Paul-de-Vence. Vous êtes l'aîné de trois avec des parents médecins et puis une musique comme ça qui est déjà dans le quotidien parce que on écoute de la musique chez vous, Cédric Tiberghien. Le moment où vous-même, vous allez vous mettre au piano, il n'est pas immédiat, il va falloir attendre quand même d'avoir 4-5 ans. Ce piano, quand vous le touchez pour la première fois, est-ce que ça, c'est un souvenir qui est encore très vif?
Je pense que je l'ai touché avant de commencer le piano. Je me rappelle très bien du premier morceau que j'ai joué. Je me rappelle de la couleur de la partition, de la forme des notes qui étaient écrites assez grosses. C'est une partition qui aujourd'hui m'horrifierait peut-être parce que c'était une approche extrêmement scolaire. On commençait par le do, la main droite seulement. Enfin, mais malgré tout, je me rappelle quand même de cette partition. Je la vois très très bien. Mais je pense que j'avais touché le piano auparavant. C'est vrai que cette rencontre avec l'instrument, moi j'étais tout petit, hein, j'avais 2 ans et demi. Donc mes parents étaient allés dîner chez cette professeure de piano et elle avait vraiment insisté pour que mes parents viennent avec leur petit garçon qui était tout jeune parce qu'elle voulait me voir, parce que quand elle m'a montré le piano, ça m'a tellement marqué. Alors ça, je m'en rappelle pas, mais on me l'a raconté souvent après. Ça m'a tellement marqué, il devait être, je sais pas, 7h du soir quand mes parents sont arrivés à ce dîner. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a joué je sais pas quel morceau, et puis elle m'a montré l'intérieur du piano. Ça, je sais que ça m'a marqué. Elle m'a montré les marteaux, elle m'a montré, tu sais, quand on appuie sur une touche, ça bouge à l'intérieur et ça fait du son. C'est quand même extraordinaire, c'est magique. Mais ça m'a tellement travaillé, probablement, qu'à 11h30 ou minuit, alors que c'est une maison que je connaissais pas, je suis descendu dans le noir d'un étage, la chambre où j'étais, pour aller redemander de voir le piano. Donc ça m'avait vraiment travaillé, et vraiment, je pense que ça s'est vraiment né à ce moment-là. Il paraît qu'après, je revenais très souvent avec l'idée de « Ah, j'aimerais bien faire du piano ». Et elle avait dit, mais avant 5 ans, ça sert à rien du tout. Et je pense que j'ai dû aller sonner chez elle le jour de mon anniversaire en disant, bah, tu sais, maintenant j'ai 5 ans. Pour moi, au début, c'était vraiment très naturel. Ça a toujours été un besoin. Alors bon, je dirais que c'est le hasard. Je pense qu'on a tous comme ça des activités. J'en ai fait d'autres, des activités que j'aimais bien, mais il n'y a pas eu ce petit déclic qui a fait que j'avais vraiment envie. Puis j'attendais mon cours avec impatience chaque semaine.
Alors, qui était cette femme?
C'était, donc elle s'appelait Michèle Perrier. C'était une professeure de piano qui, elle avait travaillé en tant que répétitrice auprès d'un maître à Paris. Et qui, pour des raisons familiales, je crois que sa famille était très modeste, avait pas eu la possibilité de devenir pianiste. Alors, on ne sait pas. Elle serait peut-être pas devenue pianiste. En tout cas, c'était une excellente pédagogue avec les enfants. Elle avait beaucoup d'élèves. Je me rappelle, il y avait des auditions à la fin des années où il y avait 50 passages, 60 passages. Ça durait 3h30. Ça devait être, je dirais pas d'un ennui mortel, mais bon, disons que c'est, voilà. Et puis, il y avait beaucoup de débutants jusqu'à relativement avancés. Et c'était quelqu'un qui, je pense, m'a vraiment pris sous son aile et qui a senti en fait peut-être la curiosité ou l'envie d'apprendre et qui m'a appris bien plus qu'autour de la musique. C'est quelqu'un qui m'a initié aux beaux-arts, vraiment. À la maison, on avait déjà des livres de peinture chez mes parents, des collections complètes avec 40 peintres qu'on feuilletait de temps en temps. Mais c'est vraiment cette prof de piano qui m'a vraiment montré, je me rappelle, les impressionnistes, c'est le premier choc, peut-être esthétique, pictural, c'était effectivement Monet, Sisley, Pissarro, et j'avais 8 ans.
C'est Tircis et c'est Damas.
comme elle avait travaillé avec quelques personnes à Paris, elle avait quelques contacts, elle s'est dit, il faut que j'aille le présenter à un maître. C'était un peu la vieille école. Maintenant, quand j'en parle, j'ai l'impression de parler du 19e siècle. Mais il y avait un peu ça. Et donc, elle m'a amené chez une dame qui s'appelait Jacqueline Roy. Efstinieff, donc ça c'était son nom de femme, et Jacqueline Roy c'était son nom de jeune fille, qui avait 80 ans. Elle habitait un grand appartement rue de la Chaussée-d'Antin. Je dois dire qu'à chaque fois que je passe devant cet immeuble, qui maintenant, je sais plus ce qu'il y a, mais ça ouvre une sorte de boîte de Pandore de la mémoire. Je dirais pas que je garde des souvenirs de son enseignement, mais je me rappelle de sa bienveillance et de son, presque de son expérience au-delà de tout ce qu'elle a pu me dire. Et donc après c'est une sorte de chaîne dans ses autres élèves très avancés. Il y avait Frédéric Agassi, ça c'était il y a longtemps, il avait gagné le concours Lantibault, donc j'ai commencé à travailler avec lui, et puis lui a été assistant de Gérard Frémy, donc je suis rentré dans la classe de Gérard Frémy au conservatoire. Donc voilà, tout s'est fait en fait
une vraie filiation.
Exactement, une vraie filiation, et ça c'est quelque chose, on pourra en reparler pour des tas de choses. Je crois pas du tout en le choix, en fait. On suit le chemin qui se présente à nous. Donc voilà. Et cette professeure de piano, c'est quelqu'un qui a pris de l'importance, sans doute beaucoup trop d'importance même par rapport à...
Cette première, Michel Perrier.
Oui, Michel Perrier, elle est toujours restée présente, malgré les différents maîtres que j'ai pu avoir. Elle a toujours participé à l'aventure. Elle était là pour me faire vraiment travailler de plus en plus. Elle était vraiment l'entraîneur qu'on imagine un petit peu étouffant. Et on est arrivé à un moment où clairement c'était beaucoup trop, mais c'est vrai que ça a duré longtemps. Moi, de l'intérieur, c'est quelque chose qui sans doute me convenait, mais qui m'a coupé aussi du monde extérieur, notamment à l'adolescence. À l'adolescence, c'était travail, 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 et puis c'était effectivement une certaine idée de la beauté, c'était la littérature, c'était la découverte de Flaubert, de Sand, des correspondances, des peintres, de toute une époque. C'était plutôt 19e siècle, mais malgré tout, même si ce 19e aujourd'hui n'est plus forcément le cœur de mon esthétique, c'est quand même par là que j'ai découvert finalement une forme de beauté artistique. Pour ça, je pense que c'est vraiment la personne qui m'a ouvert la porte, quoi.
Et vos parents, Cédric Tiberghien, comment est-ce qu'ils voyaient, eux qui adoraient la musique, qui donc vous ont quand même mis aussi dans les mains de ces différents professeurs, et puis surtout de la musique avec un M majuscule? Ils devaient être à la fois très heureux de vous voir progresser et grandir, et en même temps, peut-être un peu...
Un peu inquiet, ouais. Un peu inquiet probablement, oui, parce que c'est vrai que d'une certaine façon, il y a je vais pas dire un phagocytage, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais non, disons que c'est vrai que le temps passé avec cette professeure de piano, puis même l'ensemble de l'univers, finalement, d'une forme d'éducation culturelle
qui prend le pas sur celle de vos parents.
Exactement, qui finalement au bout d'un moment a pas vraiment remplacé, ça a pu être, je pense, vécu difficilement. Bon, moi, d'une certaine façon, j'étais choyé. Donc ça, c'est quand même, je pense, un sentiment qui est très très important quand on se développe, de sentir que on peut être au cœur de l'intérêt de plusieurs personnes. C'est quelque chose qui est vraiment très très positif. Après, je pense que pour eux, ça a dû être parfois un petit peu difficile. Mais en même temps, il y avait les résultats qui étaient là, le sentiment aussi que je m'épanouissais dans un domaine que j'adorais. J'adorais la musique, et puis quand il fallait passer des concours, c'était pas un stress parce que j'adorais la musique, donc je me suis jamais retrouvé dans une sorte de d'engrenage complexe sous une pression étouffante. Il y avait une forme de, oui, une sorte de cloche à l'intérieur de laquelle les choses devaient être parfaites, probablement, mais qui, à l'époque, ne m'ont pas pesé. Alors après, maintenant, avec le regard de nombreuses années derrière, je me dis que c'était toxique aussi, parce que, effectivement, un enfant a besoin de rencontrer d'autres personnes, d'avoir du temps aussi, du temps, ça, c'est la chose dont on manque le plus, d'avoir du temps pour s'ennuyer, du temps pour rien faire, du temps pour jouer, du temps non dirigé, de savoir aussi faire ses propres choix, alors que finalement, j'ai été très dirigé, et j'étais, je pense, très, d'une certaine façon, consentant, c'est-à-dire qu'on me disait, bah, tiens, tu vas faire ça, mais je le faisais avec plaisir, sans forcément me poser trop de questions, mais ça déresponsabilisait peut-être un tout petit peu mes choix. Mais finalement, comme je disais, c'est un chemin comme un autre qui m'a amené là où je suis aujourd'hui.
Votre sœur, elle a eu ce même genre d'expérience aussi, un professeur très pygmalion, très... Est-ce que vos parents, je veux dire, se sont retrouvés finalement avec deux enfants sur trois qui étaient sous emprise de personnes qui étaient bienveillantes, évidemment,
mais... Oui, oui, oui. Bah, disons que c'était les mêmes professeurs. Et donc, ça s'est moins bien passé. Il y a eu plus de rébellion, d'une certaine façon, de la part de ma sœur. Et rébellion qui m'a traversé l'esprit, mais que beaucoup plus tard. Et finalement, cette rébellion qu'on associe souvent à la crise d'adolescence, moi, je l'ai vraiment décalée. Et donc, c'est un petit peu comme si le temps s'était un peu arrêté, en fait. C'est quelque chose, je pense, dans le développement d'un musicien ou d'un enfant, quel que soit son domaine, c'est quelque chose qui est important, c'est de réussir à garder son temps pour l'enfant. Pour moi, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté peut-être à l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de, je dirais, 20 ans. Il y a une dizaine d'années pendant lesquelles je me suis peut-être pas vraiment développé moi-même. On m'a développé dans une très belle direction avec énormément de belles choses, mais avec finalement en creux un vide, je dirais presque intérieur, qui fait que finalement, quand on sort de là, il peut y avoir pas forcément de la souffrance, mais un sentiment de qu'est-ce que je vais faire de ce vide, et c'est quelque chose que j'utilise dans la musique tous les jours.
France Musique, les grands entretiens de Cédric Thiberguien.
C'est peut-être de là que naît cette espèce de source que vous évoquez d'émotions qui ne tarit jamais et qui semble vous fasciner. Peut-être d'avoir réussi à le remplir, en fait.
Ah mais absolument, et c'est quelque chose... J'ai aussi ce sentiment d'être souvent encore un enfant. C'est justement, vous parliez de Michaud tout à l'heure, moi c'est Gérard Frémy qui m'avait parlé de ce texte absolument fabuleux qui s'appelle Un phénomène qu'on appelle musique, qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Passage, dans lequel Michaud, qui n'était pas musicien lui-même, parle de la musique de la façon la plus vraie, la plus juste, et il commence par parler du pouvoir du jeu. Ils disent, quand on grandit, on oublie l'importance du jeu, on arrête de jouer. Et alors que justement, les enfants ont cette faculté extraordinaire de pouvoir jouer tout le temps, avec tout, même parfois l'absence d'objets va créer le besoin de jouer, et qu'en tant que musicien, on a la chance extraordinaire de continuer à jouer. Et ils jouent aussi, ils travaillent un petit peu sur ce terme de jouer, qu'on utilise d'ailleurs, je veux dire, c'est pas dans toutes les langues, je veux dire, en italien, on touche le piano, mais c'est vrai qu'en anglais ou en français, on dit vraiment jouer du piano. Donc il y a cette idée un petit peu qui est liée à l'enfance, et à une forme d'innocence aussi, qui pour moi reste très très importante, de reste finalement de faire une sorte de lien, peut-être à ce moment de l'enfance où on est encore dans l'innocence, dans la découverte de tout ce qu'il y a autour de nous, de garder cette espèce d'ouverture d'esprit qui nous dit tout ça pourrait être nouveau dans mes yeux, il faut que j'en profite.
Ce professeur de la Chaussée d'Antin, Cédric Thiberguien, vous avez eu des cours, des leçons avec elle ?
Oui.
Elle était comment? Est-ce que c'était une autre école? Est-ce que justement, oui. C'est une façon un peu kaléidoscopique d'apprivoiser l'instrument? Vous aviez Michel Perrier, puis après, cette femme-là, qui va vous emmener petit à petit vers d'autres professeurs, mais qu'est-ce qu'elle vous aurait apporté, elle, en particulier?
L'importance à accorder à la musique. Jusque-là, je pense que j'ai travaillé mon piano sans me poser trop de questions. Et puis tout à coup, il y a cette dame qui parlait beaucoup. Il y avait des cours de 2h30 et ça arrivait qu'elle parle peut-être les 2/3, voire les 3/4. Elle parlait de gens dont j'avais jamais entendu parler. Galois-Montbrun, ça me disait rien. Yvonne Lefébure, ça me disait rien du tout. Mais finalement, à force d'en entendre parler... Lazare Lévy, elle parlait tout le temps de Lazare Lévy. C'est tout ça, c'est une sorte de. Aujourd'hui, je me rends compte de lien avec le temps passé. Et d'une certaine façon, on me pose souvent la question dans les interviews. Et alors, l'école française? Je dis waouh. Aujourd'hui, mondialisation, machin et tout. Mais il y a un lien direct. Et Frédéric Agassi, dont j'étais l'élève après, avait vraiment travaillé avec Yvonne Lefébure. Et il y a quand même, je pense, malgré tout, elle m'a apporté peut-être justement cette touche française. Que on peut pas renier, même si effectivement on a envie de dire qu'aujourd'hui un pianiste français peut jouer la musique russe, un pianiste russe peut jouer la musique française, on le voit tous les jours. Mais il y a malgré tout, je pense, une sorte de flair français qu'elle m'a apporté. Et d'ailleurs aussi des choix de répertoire. J'ai travaillé mes premiers Debussy avec elle. Et même si j'en garde pas une mémoire vive, je pense que le fond de ce qu'elle a apporté m'a marqué pour les années, voire les décennies à venir.
Il y avait donc Debussy, est-ce qu'il y avait aussi Chopin, Liszt, ou plutôt Alcan, Ravel, ou Beethoven? Enfin, cette période-là, vous avez quoi, à peu près 12 ans?
Oui, voilà, j'ai entre 10 et 14 ans. En 14 ans, je suis rentré au Conservatoire de Paris. Alors, il y a forcément eu du Chopin, il y avait les études de Chopin, qui, c'est sans doute la première personne à m'avoir dit, ce ne sont pas des exercices. Et de dire, voilà, tu vas voir effectivement l'étude, ça commençait même avec les études de Czerny, juste avant, où elle me disait, n'oublie jamais, dès que tu touches l'instrument, c'est de la musique. Et donc, elle me faisait même faire des gammes et des arpèges, ce qui était horrible. Mais malgré tout, je pense que, voilà, la musique est omniprésente. Mais curieusement, je l'associe plutôt à, si vous me demandez ce que j'ai travaillé avec elle, c'est, je pense à Debussy, je pense à Bartok. Les premiers Bartok marquants de ma vie ont été vraiment vus avec cette dame. Mon premier contact avec Beethoven, ça c'est sûr. La première sonate, je me rappellerai la fierté quand elle a dit pour la semaine prochaine, ce sera le premier mouvement de la première sonate. Ah, là, c'est comme si elle m'avait dit, tu vas rencontrer Jésus la semaine prochaine. Je dis, ça alors, c'est curieux quand même. Oui, là, c'est en fait. Une sorte de relief qu'elle a donné à la musique. C'était pas simplement jouer du piano, c'était être au contact de grandes choses. Ça, c'est pareil. C'est des idées qui peuvent paraître très finalement simples, très naturelles, et que je me remémore très très souvent, même dans la vie de tous les jours, mais au piano, de me dire. C'est extraordinaire de pouvoir avoir accès à de grandes choses, à de grands horizons, d'avoir cette chance-là. Et c'est quelque chose qui, finalement, est un peu bizarre. On a une mécanique, on utilise son corps par rapport à la mécanique. Tout ça, c'est un peu mystérieux. C'est presque une espèce d'alchimie bizarre. On va dire, on va vous transformer en or ou je sais pas quoi. Et tout à coup... C'est comme si on était en lien direct avec Debussy, avec Beethoven, avec Bach. Et je me rappelle avoir fait un programme autour de Brahms et Bartok il y a quelques années chez des particuliers aux États-Unis qui étaient, je crois, les sponsors du concert. Et il y avait clairement un monsieur d'un grand âge qui était dans le grand fauteuil de la pièce, qui était la personne importante. Donc j'ai joué quelques pièces de Brahms, quelques pièces de Bartok, et qui me dit « Ah, merci, vous savez, c'est beau Bartok. » Quand j'étais jeune, il y a un monsieur comme ça qui est venu donner des conférences dans notre université. Il était très vieux, malade, il avait faim, je lui ai apporté à manger. C'était Béla Bartok. Et tout d'un coup, rien que d'en parler, ça me donne encore la chair de poule. Je me dis, mais c'est fou, cet homme devant moi a côtoyé peut-être un mois ou deux Béla Bartok, et tout à coup, c'est presque comme s'il avait été là devant moi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de rappeler en disant, vous savez, je sais pas, Brahms et Schoenberg ont vécu tant d'années en commun, et se dire aussi que Schoenberg, il a vécu avec des gens que vous connaissez peut-être encore, et on a l'impression que Brahms va apparaître au coin de la rue et faire « Ah ah, salut !»
Quand vous avez 10-12 ans, est-ce que ces professeurs vous font écouter qui, Richter, Gilels, Schnabel, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a comme ça des figures un peu tutélaires aussi, des disques qu'on vous offre?
Oui, alors curieusement, ce ne sont pas vraiment mes professeurs. C'est plutôt effectivement la famille ou des amis qui, voyant que je fais du piano, se disent « Ah, mais c'est formidable, on va lui offrir des disques ». Et donc là, le premier qui me vient à l'esprit sont les valses de Chopin par Lipati, qui m'ont été offerts, un disque rose, là, un micro-sillon, avec les 14 valses. Je crois pas que ce soit le récital, le fameux récital Besançon, je crois que c'est l'enregistrement officiel, avec lequel j'ai écouté des centaines de milliers de fois, le disque était inaudible aujourd'hui, donc ça forge un caractère. Il y avait la vie de Chopin, sa vie, son œuvre, avec Tamás Vasari qui jouait le début du final du premier concerto, enfin des choses que j'écoutais en boucle. Il y avait Rubinstein bien sûr dans les ballades de Chopin ou les nocturnes. Donc c'est les premiers noms, oui c'est ça, c'est Rubinstein, Lipati, clairement. Et je pense que vraiment, sans forcément dire qu'ils m'ont influencé directement, je pense qu'ils ont participé d'une certaine façon à la conscience du style. C'est quelque chose, je me rappelle avoir joué un premier valse de Chopin, et puis je me disais, bah, c'est cool, Lipati, là, le disque, et puis je mets le disque, je me dis, ah, bah, c'est curieux, il joue pas comme moi. Donc, c'était plutôt dans l'autre sens, mais je pense que je me suis dit ça. C'est vraiment très obscur, on peut pas expliquer ça à un enfant, c'est beaucoup trop abstrait de dire, tu sais, tu vas raconter quelque chose. Alors bon, bien sûr, il y a Pierre et le Loup, il y a toutes ces histoires, mais on est au-delà du purement descriptif, c'est-à-dire avec une valse de Chopin qui n'a pas d'histoire proprement parlée, il faut raconter quelque chose. Et ça, je pense que c'est effectivement en confrontant mes premières expériences d'œuvres célèbres au piano avec des disques que j'avais à la maison que ça a ouvert la boîte de Pandore.
C'est sur cette valse numéro 9, opus 69 de Chopin par Dino Lipati que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Cédric Thiberguin. Réalisation Christine Amado, prise de son Yves Lehors, mixage Éric Boisset, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.